Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, après une première émission sur le sujet des bonnes pratiques d'égalité professionnelle, tout particulièrement dans la fonction publique territoriale, aujourd'hui je vous propose, toujours dans le monde professionnel, d'aborder le sujet de l'égalité salariale dans la fonction publique territoriale. Prête ?
Prête.
Nadine, on parle beaucoup d'égalité salariale en ce moment. C'est même l'un des thèmes de la loi transformation de la fonction publique. C'est surprenant. Avec un recrutement sur concours et des grilles indiciaires, la fonction publique doit garantir l'égalité salariale tout de même?
Mais en fait, non. D'abord, le recrutement sur concours ne concerne en fait qu'un poste sur six, ce qui est très minoritaire. Et ensuite, les facteurs d'inégalité salariale sont multiples. Il y a le temps partiel subi, le congé maternité, le congé parental, les filières féminisées qui sont moins rémunératrices que les filières masculinisées, l'avancement plus lent des femmes, la répartition inégale des postes à responsabilité, des tas de facteurs qui se conjuguent pour creuser les inégalités salariales. Alors, dans tous ces facteurs, il y en a trois en particulier qui sont incriminés. D'abord, la naissance d'un enfant, ce qui pénalise le salaire des femmes en termes de temps de travail alors qu'il engendre une prime pour les hommes, c'est quand même assez surprenant. Le deuxième critère important, c'est l'âge, puisque les inégalités salariales s'accroissent au fil de la carrière et au point qu'elles peuvent représenter 25% d'écart chez les cadres en fin de carrière, ce qui est énorme, et les primes qui constituent 40% des différences de salaire entre femmes et hommes dans les catégories B et C, la fonction publique territoriale. Voilà, en fait, si je le dis autrement, ce que montrent les études, c'est qu'il existe un plafond de verre inexplicable. C'est-à-dire que plus les niveaux de rémunération des emplois sont élevés, moins les femmes ont une probabilité d'y accéder. Et une très faible part même de l'écart salarial provient des différences individuelles, c'est-à-dire le diplôme, l'âge, etc. Et donc, le seul fait d'être une femme rend plus difficile la progression dans l'échelle des rémunérations.
C'est choquant, évidemment. Mais est-ce que l'écart salarial est vraiment si marqué ?
Alors, en moyenne, on estime à 13%, enfin on estime, on calcule même, à 13% l'écart de rémunération nette moyenne entre femmes et hommes dans la fonction publique en général. Dans la territoriale, on constate 9% d'écart salarial. Alors évidemment, c'est déjà beaucoup mieux que les 20-25% du secteur privé. Et c'est aussi beaucoup mieux que la fonction publique hospitalière qui compte 15% d'écart. Donc la fonction publique territoriale, c'est quand même la bonne élève de la fonction publique. Mais quand même, l'inégalité de rémunération entre les agentes et les agents, toutes catégories confondues dans la territoriale, représente 180 euros mensuels net. Si vous faites le calcul annuel, on est quand même autour de 2000 euros. Dans les catégories B et C, l'écart moyen est de 2400 euros annuels net. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Et chez les cadres, alors là, l'écart est encore plus accentué. 625 euros mensuels moyens, ce qui fait déjà 7500 euros annuels, mais cet écart se creuse, mais incroyablement, au cours de la carrière. À moins de 30 ans, le différentiel est déjà 150 euros mensuels, ce qui est surprenant quand même en début de carrière avec les concours et les grilles de départ.
Effectivement.
Entre 30 et 40 ans, l'écart est de 330 euros mensuels, et en fin de carrière, il est de 820 euros par mois. Si vous calculez, ça fait 9900 euros par an. Voilà. Donc l'écart qui était de 7% entre les femmes cadres et les hommes cadres en début de carrière atteint, je le disais tout à l'heure, 25% en fin de carrière, ce qui est quand même énorme. Et c'est ça qu'on appelle d'ailleurs le plafond de verre. Tout ce qui empêche les femmes de monter dans la pyramide hiérarchique, tout ce qui les cantonne à des emplois à la fois moins élevés et donc moins rémunérateurs.
Effectivement, Nadine, il existe pourtant des lois pour assurer l'égalité salariale.
Mais oui, c'est le paradoxe. Il y a beaucoup de lois, de nombreuses même, depuis la première, en 1972, qui stipulait, je la cite, que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'était la première loi en 72. On a ensuite la loi Roudy, en 82, qui crée le rapport de situation comparée, l'obligation de mettre en place des actions pour supprimer les inégalités salariales et professionnelles. Ensuite, c'est la loi Génisson, en 2001, qui renforce la législation, qui impose une négociation sur l'égalité professionnelle au niveau de l'entreprise et des branches. On pourrait citer encore plusieurs lois ultérieures, par exemple la loi El Khomri de 2014, et puis il y a des accords, il y a des protocoles, il y a des circulaires. Mais vous savez, quand on revient sans cesse sur une loi, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle n'est pas ou qu'elle est mal appliquée, et c'est le cas, on vient de le voir.
Et la nouvelle loi, qu'ajoute-t-elle aux dispositions existantes ?
La loi, alors c'est la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, qui précise, qui renforce et qui complète les dispositions existantes en matière d'égalité professionnelle. Elle s'organise autour de 5 axes thématiques, et je ne parle que de l'égalité professionnelle. Et donc, dans ces axes thématiques, elle propose des indicateurs, une méthodologie et des sources de financement. Alors, pour notre sujet, là, de l'égalité de traitement, c'est l'axe 3 qui nous intéresse, celui qui vise à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière. La loi propose une méthodologie d'identification des écarts de rémunération. Ça, c'est l'un des items obligatoire du rapport de situation comparée. Et ce rapport, je rappelle que la fonction publique y est tenue depuis la loi du 4 août 2014. Et donc ce rapport situation comparée vient d'être fusionné dans la loi du 6 août 2019 puisqu'il s'intègre maintenant au rapport social unique. Ce rapport de situation comparée, il est obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants et il doit alimenter un plan d'action pluriannuel qui comporte des mesures, je le cite, destiné à évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Voilà, donc ça c'était des mesures qui étaient déjà en place depuis quelques années et quelques lois, mais la nouveauté de 2019, c'est que la loi prévoit des pénalités financières en cas de carence du plan d'action d'ici le 31 décembre 2020. Alors cette pénalité financière, elle peut atteindre quand même 1% de la rémunération brute globale de l'ensemble des personnels de la collectivité, et 1%, ce n'est pas rien. D'autres mesures sont destinées à lutter contre les inégalités salariales. Je suis toujours dans ma loi de transformation publique du 6 août 2019. En particulier, le régime indemnitaire est désormais maintenu en cas de congé maternité, paternité ou d'adoption. Et dans le même esprit, les droits à l'avancement et la promotion sont conservés pendant le congé parental ou pendant la disponibilité pour élever un enfant dans la limite de 5 ans au cours de la carrière. Et quand on sait que le congé parental est pris à 95% par les femmes, on mesure l'importance de ne pas les pénaliser, de ne pas les bloquer dans leur déroulement de carrière ou leur avancement.
Effectivement. Nadine, d'après vous, y a-t-il d'autres mesures significatives en faveur de...
De l'égalité des rémunérations? Oui.
Oui.
La loi prévoit l'extension et le renforcement du dispositif des nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur et dirigeant, avec l'abaissement du seuil des collectivités ciblées par le dispositif. Maintenant, ce sont les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants qui sont concernées, alors que jusqu'alors, c'était seulement les collectivités de 80 000 habitants. Donc, les dispositifs de nomination équilibrés, je rappelle que ce sont des quotas, un pourcentage imposé du sexe sous-représenté dans les emplois de direction, dans les jurys et dans les comités de sélection. Et puis la loi impose aussi un objectif de progression du nombre de femmes dans le nombre global d'emplois de direction. En parallèle du dispositif de nomination équilibrée, il y a ce qu'on appelle le dispositif d'avancement équilibré, qui consiste à prendre en compte la situation respective des femmes et des hommes dans les viviers d'agents promouvables pour l'égal accès aux avancements de grade au choix. Je rappelle que les femmes cadres représentent 60% des personnels de la fonction publique territoriale. Enfin, je veux pas dire qu'il y a 60% de cadres dans la territoriale. Je veux dire que parmi les cadres, il y a 60% de femmes, donc elles représentent un vivier de 60%. Et pourtant, plus on monte dans la pyramide hiérarchique et plus on trouve des hommes. Voilà, donc là, il faut vraiment prendre en compte aussi ce prorata du vivier d'agents promouvables. Et enfin, la loi impose à toutes les collectivités territoriales, donc là, il n'y a pas de limite au niveau du nombre d'habitants, la mise en place d'un dispositif de signalement des discriminations, des violences, du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes, tous délits qui sont définis et réprimés par la loi dans le Code du travail, dans le Code pénal et dans la loi de Le Port. Et là, je vous renvoie aussi aux autres émissions qu'on a pu consacrer, soit au harcèlement sexuel, soit aux discriminations. Ce dispositif doit permettre de traiter, d'accompagner, d'orienter les victimes de ces agissements.
Il y a une question que je me pose, c'est comment faire pour appliquer la loi et avec quel argent?
Alors,
quels moyens, on va dire?
Bah, vous avez raison, c'est toujours le nerf de la guerre. D'abord, il faut bien rappeler que l'égalité salariale s'inscrit dans un cadre plus large, qui est l'égalité professionnelle, et que l'égalité professionnelle est elle-même un pan de l'égalité femmes-hommes en général. On peut donc imaginer des actions qui sont communes, tout ce qui concerne la déconstruction des stéréotypes, par exemple, et tout ce qui permet de diffuser une culture de l'égalité au sein de la collectivité territoriale. Les services, les structures au sein du territoire ont donc intérêt à mutualiser certaines actions. Et ce qui est vrai au niveau interne peut être fait aussi entre collectivités. Elles peuvent mutualiser des outils, des dispositifs sur un territoire commun. Par exemple, co-monter des événements, des formations, co-concevoir des outils, partager des méthodologies. Et d'ailleurs, la loi de transformation publique conçoit justement et autorise cette mutualisation concernant le dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles dont je parlais il y a un instant, en disant que le territoire peut mutualiser ce dispositif. Par ailleurs, la loi de transformation de la fonction publique, toujours 6 août 2019, prévoit la création d'un fonds en faveur de l'égalité professionnelle pour cofinancer des actions de sensibilisation et d'accompagnement en matière d'égalité femmes-hommes. Ça aussi, c'est une nouveauté de cette loi. Et donc, il faut profiter de ce fonds pour former les personnels, les doter d'une vraie culture de l'égalité et pour accompagner, si nécessaire, les personnels d'encadrement, les services RH, pour qu'ils respectent au mieux les obligations légales en matière d'égalité professionnelle. Alors là, on parle d'argent, mais je tiens à rappeler qu'un certain nombre d'actions en faveur de l'égalité ne coûtent rien à la collectivité. Par exemple, quand on travaille sur les stéréotypes, sur une communication non sexiste, sur la rédaction des fiches de poste, sur les dispositifs internes d'information des postes ouverts à la promotion, sur la comparaison des compétences professionnelles entre différents métiers. Tout ce qu'on a évoqué, en fait, dans l'émission qui était consacrée à l'égalité professionnelle, ou les incitations à la parentalité, ou l'articulation des temps de travail et des temps personnels. Voilà. Toutes ces actions, bien sûr, peuvent demander du temps au départ, mais elles ne coûtent rien en termes de budget. Et elles font progresser la collectivité tout entière.
D'après vous, quelles actions concrètes la collectivité territoriale peut-elle mettre en place pour respecter la loi ?
On peut accompagner la loi de différentes manières. Par exemple, on peut monter des comités de gestion de carrière qui seraient formés à la question du plafond de verre et des écarts de rémunération et qui auront une vigilance particulière sur le déroulement de carrière des femmes, aussi bien les femmes cadres. On a parlé tout à l'heure des grandes inégalités salariales qu'elles subissaient tout au long de leur carrière, donc les femmes cadres, mais aussi les agentes des filières mal rémunérées, les agentes à temps partiel, celles qui sont en horaire atypique, celles qui sont contractuelles précaires, toutes ces catégories en fait qui comptent massivement des femmes, ce qui génère des inégalités salariales importantes. Par exemple, je pense que les directions doivent vraiment être attentives au déroulement de carrière des agentes à temps partiel ou non complet et qu'elles peuvent essayer de réduire le nombre d'emplois à temps partiel ou non complet dans les métiers très féminisés pour résorber la précarité des agentes. Par exemple, je connais une collectivité qui a travaillé à la diminution des emplois à temps non complet en créant des équipes de remplaçants composées d'agents titulaires et en favorisant le cumul de plusieurs postes de même type. Et en œuvrant au temps de travail, bien sûr, en augmentant le temps de travail, mécaniquement, on augmente les salaires et donc on réduit les inégalités salariales. Et à plus long terme, on peut aussi agir sur ces écarts salariaux en développant les compétences des agentes les moins qualifiées, les plus précaires, en facilitant leur accès à la formation, parce que là aussi, on a constaté que la formation est actuellement inégalitaire. Ce sont d'abord plutôt les hommes, et les cadres en particulier, qui en bénéficient le plus. Mais là aussi, évidemment, l'accès à la formation doit se faire en intégrant les contraintes qui pèsent sur les femmes, en particulier la double journée des femmes, les charges familiales qui se cumulent au temps de travail. Parce que, bien sûr, on peut proposer des formations tant qu'on veut, mais un certain nombre de femmes ne pourront partir en formation que si les modalités de formation concrètes, le lieu, la durée de formation, les horaires, les conditions de transport, sont compatibles avec leur organisation familiale. Et ça veut dire que l'articulation du temps professionnel et du temps personnel constitue aussi un levier ou un frein à l'avancement des femmes et donc joue sur les inégalités salariales.
Vous citiez tout à l'heure le principe du travail égal. Pourriez-vous le définir ?
Alors, c'est vrai que la loi de 1972 parle soit de travail égal, soit de travail de valeur égale défini, alors je vais citer la loi, comme un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles validées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité ou de charges physiques ou nerveuses liées au poste de travail. Alors, c'est une question très complexe, surtout au niveau du droit, donc je ne peux pas la développer en détail ici, mais ce qui est important à retenir, c'est que la notion de valeur égale peut s'appliquer à des métiers qu'on aurait a priori pas l'idée de comparer. Alors, je pense par exemple à des métiers, comme je disais, qu'on ne va pas spontanément comparer, mais qui mobilisent quand même des compétences, des niveaux de responsabilité ou des niveaux de charge comparables. Alors, je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. La jurisprudence européenne a estimé que les métiers d'orthophoniste et de pharmacien étaient comparables et qu'une égalité de salaire se justifiait auprès de l'employeur, c'était en l'occurrence le Service national de santé au Royaume-Uni. Bon, ça c'est un exemple anglais, mais si on prend des exemples français, la jurisprudence a aussi considéré que des ouvrières a donné raison à des ouvrières en termes d'égalité salariale en montrant que la fatigue nerveuse qu'elles subissaient dans leur métier équivalait aux contraintes physiques imposées aux hommes dans un métier tout à fait similaire. Et un autre exemple célèbre au Canada, pour le coup, est révélateur, c'est celui des gardiens de zoo, mieux payés que les gardiennes d'enfants. Alors, je n'ai pas vérifié si c'était toujours le cas, mais j'ai trouvé l'exemple extrêmement révélateur de la valeur aussi qu'on accorde à la fois aux enfants et à celles qui s'en occupent. Voilà. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de prendre soin. Alors voilà, est-ce qu'on prend soin des animaux, est-ce qu'on prend soin des jeunes enfants. Alors vous voyez comment une collectivité peut lancer la réflexion sur le sujet. Par exemple, elle peut élaborer des référentiels métiers pour comparer, enfin s'inspirer hein, des référentiels déjà existants, pour comparer les tâches, les compétences entre différents postes, différentes fonctions, et vraiment mettre en pratique l'égalité de traitement inscrite dans la loi. Travail égal, salaire égal, ou travail de valeur égale, salaire égal. Et en fait, comparer ce qui est comparable au-delà des différences de métier permettrait de revaloriser certains postes, certaines fonctions majoritairement occupées par les femmes.
On vient de parler du travail égal, Nadine, et qu'en est-il du salaire égal ?
Alors effectivement, la question n'est pas seulement de définir ce que peut être un travail égal, mais aussi d'assurer l'égalité de traitement. Et là, il y a une action qui est vraiment importante à mener. C'est celle qui consiste à réduire les écarts de régime indemnitaire entre les différentes filières qui sont souvent très sexuées. En gros, dans la territoriale, on retrouve les hommes dans les filières techniques, secours, police, incendie, massivement, et les femmes dans les filières administratives, sociales, médico-sociales, et puis aussi dans l'animation et éventuellement dans la culture. Or, ce qu'on a constaté, c'est que les filières qui sont majoritairement masculines sont historiquement plus valorisées, mieux rémunérées que les filières féminines. Il est donc important d'harmoniser les différentes filières de manière à résorber les écarts de rémunération. C'est ce qu'a fait la ville de Rennes, qui a engagé une action à niveau de fonction égale, salaire égal, pour réduire ces écarts de rémunération. Voilà. Les différences de rémunération entre les filières administratives, culturelles, médico-sociales et sociales d'une part, et la filière technique d'autre part, ont été réduites. Pour les cadres, une harmonisation des régimes indemnitaires a été effectuée à niveau de fonction égale. Les cadres des filières féminisées administratives, culturelles, médico-sociales ont vu leurs primes augmenter. Et pour les catégories B et C, par analogie avec les déroulements de carrière dans la filière technique, on a construit deux carrières types pour les agents de toutes les filières. Voilà. Donc là, il y a eu vraiment une harmonisation qui permettait aussi de dérouler la carrière de manière plus égalitaire. Et on voit bien comment ce type de démarche réduit très concrètement les inégalités salariales, en partie tributaires des inégalités entre les filières. Et ce que je voudrais souligner, c'est que là, finalement, cette réduction des inégalités salariales, elle s'est faite par le haut. Voilà, on n'a pas enlevé aux uns, on a ajouté aux autres.
Effectivement. Nadine, si je vous comprends bien, la marche vers l'égalité salariale semble effectivement être longue. Ai-je bien compris ?
Oui, vous avez très bien compris. La marche peut être longue, mais je trouve quand même que le chemin est de mieux en mieux tracé, à la fois par la loi, par les bonnes pratiques et puis par petit à petit quand même la diffusion de cette culture de l'égalité. Alors c'est vrai, l'inégalité salariale, c'est vraiment une des grandes inégalités persistantes du monde du travail et en plus, elle a beaucoup de répercussions en termes de carrière, de retraite, d'indépendance financière des femmes et inversement. L'inégalité est systémique, il n'y a pas de barrière entre les inégalités professionnelles, salariales et les inégalités sociales, politiques, culturelles, etc. Les collectivités territoriales sont quand même responsables devant la loi, devant leurs agentes, devant leurs agents, devant les citoyennes et citoyens aussi, d'une démarche volontariste en faveur de l'égalité salariale et de l'égalité professionnelle en général.
Ça avance. Nadine, Jasmin, merci infiniment de cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, J'espère qu'à l'écoute de l'intervention de Madame Jasmin, vous aurez un avis sur le sujet de l'égalité salariale femmes-hommes dans le monde professionnel de la fonction publique territoriale. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour un 9e épisode sur ce sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.